Vous écoutez RTL.
Aujourd'hui, un habitant produit en moyenne 360 kg de déchets par an, soit deux fois plus qu'il y a 40 ans.
RTL.
Presque un tiers de nos poubelles est composé d'emballages.
Jusqu'à 22h.
Acheter responsable est donc une première étape primordiale dans un recyclage efficace.
La curiosité est un vilain défaut.
Le déchet le plus facile à recycler, ça va être le déchet qu'on ne va pas produire.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
31 millions de tonnes par an, c'est ce que pèsent les déchets de l'ensemble des ménages français. Et une chose est claire, nos poubelles débordent. Mais que deviennent ces déchets? La réponse avec le magazine Ça m'intéresse, qui consacre en partenariat avec RTL une enquête à ce sujet et sa journaliste, son auteur Julia Zimmerlich. Bonsoir, vous allez bien?
Ça va très bien.
Bonsoir.
Alors, 31 millions de tonnes par an pour tous les Français, ça fait beaucoup. Si on le rapporte à notre petite personne, combien chacun par an on jette de déchets, on fabrique de déchets?
Ça représente 458 kilos. Donc les derniers chiffres disponibles, c'est 2012. Et en fait, la quantité de déchets a explosé parce qu'il y a 10 ans, on en produisait 100 de moins, 100 kilos de moins.
Mais ça semble quand même assez énorme.
C'est vertigineux.
C'est vertigineux.
Quels sont les conseils qui sont donnés, je sais pas, par le ministère, par l'ADEME, l'Agence de l'environnement, de la maîtrise de l'énergie, pour qu'on produise justement moins de déchets?
C'est toujours un petit peu les mêmes déchets. En fait, en me plongeant dans la documentation, je me suis rendu compte qu'il y a 10 ans, on avait déjà les mêmes politiques de prévention. Et donc l'ADEME recommandait déjà d'éviter de boire de l'eau en bouteille, de privilégier l'eau du robinet, d'acheter ses produits en vrac, d'arrêter d'utiliser des sacs plastiques. Et en fait, finalement, la prévention porte toujours sur les mêmes thématiques. Donc on a l'impression qu'on n'y arrive pas, à changer nos habitudes.
Ça veut dire que les Français n'appliquent pas vraiment les conseils?
C'est-à-dire, oui, c'est ça, on n'arrive pas à changer nos habitudes de consommation. Alors, il y a quand même des petites avancées. On voit que ces dernières années, il y a de plus en plus de boutiques de vente en vrac qui se développent. Notamment, il y a La Recharge à Bordeaux, Jean Bouteille à Lille. Il y a aussi le réseau Day by Day, donc là, qui se développe dans toute la France.
Alors, il faut expliquer, acheter en vrac, c'est en fait, on vient avec ses sacs en plastique ou sa bouteille qu'on remplit de vin rouge, de fruits secs. C'est ça, les aliments ne sont plus conditionnés, ne sont plus sous plastique.
Voilà, exactement. C'est-à-dire que, par exemple, on va avoir sur place un sachet en papier qui va nous permettre de remplir son sachet de pâte ou de riz. Et ça permet ensuite on peut réutiliser soit son sachet ou alors on peut venir avec son propre emballage. Mais voilà, ça permet de diminuer tous ces emballages en plastique qu'on, malheureusement, on n'arrive pas à recycler encore aujourd'hui. Enfin, je pense qu'on en parlera tout à l'heure.
En même temps, à côté de ça, il y a le marketing qui nous propose des produits qui sont souvent de plus en plus emballés. Si on prend l'exemple du café.
Oui,
café, on le consomme presque tous maintenant en petite dosette, on va pas citer de marque, mais parce que c'est super pratique, parce que d'ailleurs il est bon ce café. Oui. Sauf que le café en vrac dans un sac, on l'utilise presque plus.
Oui, exactement, c'est bien le problème. Un autre problème aussi pour les bouteilles d'eau par exemple, maintenant on met sur le marché des bouteilles d'eau qui sont de plus en plus petites. Donc en fait c'est une aberration, parce que on produit de plus en plus de plastique, alors que voilà, il suffirait d'arrêter de boire de l'eau en bouteille ou d'acheter des bouteilles d'un litre.
Alors Julia Zimmerlich, maintenant on va suivre nos déchets. Une fois qu'on les a mis dans la poubelle. Alors, il faut dire qu'il y a plusieurs manières de les jeter. Hein. C'est soit les poubelles classiques, soit on pratique le tri sélectif. Que deviennent, en tout cas, les déchets dans la poubelle classique?
Alors, les déchets dans la poubelle classique, bon, ça, c'est un vrai flou. Je me suis rendu compte qu'en fait, que personne ne sait ce que deviennent nos déchets. Et je pense que c'est pour ça qu'on ne change pas nos
Comment
habitudes.
Comment ça, personne ne sait?
Bah, c'est-à-dire qu'on a une idée très vague de ce que deviennent nos déchets, quoi.
Mais si on suit les camions?
Alors, si on suit les camions...
Les enquêteurs,
enfin.
Les enquêteurs de la curiosité.
Mais oui, on y va, Thomas.
On prend nos vélos et on pédale derrière les camions.
Alors, si on suit la benne, bon, déjà, il y a deux types de benne. Donc, il y a effectivement la benne qui va ramasser la poubelle classique. Il y a grosso modo un tiers des déchets qui vont être stockés, c'est-à-dire qui vont être ramenés dans une décharge. Il y a un autre tiers qui va être incinéré. Donc en France, on a 126 incinérateurs répartis sur le territoire. Et donc là, ça va permettre soit de produire de la chaleur, soit de produire de l'électricité. Il y a 26% qui sont réaiguillés... Non, pardon, je m'arrête là. Parce qu'en fait, c'est le destin des poubelles classiques, c'est juste ça.
Ça s'arrête là. Et alors les poubelles... Les jaunes, là, celles dans lesquelles on met des produits qu'on a nous-mêmes un peu recyclés, c'est-à-dire le carton, le plastique d'un côté, oui. Etc.
Alors, la poubelle de tri, déjà...
Qui s'en occupe après?
Voilà. La poubelle de tri, déjà, elle n'est pas forcément jaune. Ça, c'est aussi une aberration à la française.
Ça dépend des villes, c'est ça?
Ça dépend des villes. Elle peut être bleue ou elle peut être verte. Donc déjà, ça...
Daltonien s'abstenir.
Voilà. Ça, c'est un peu perturbant.
Et alors, ça devient quoi après?
Alors, la poubelle jaune, ou la poubelle verte, la poubelle bleue, elle va être emmenée dans un centre de tri. Et donc là, il y a un deuxième tri qui va être effectué. On va séparer les par type de matériaux. Et ensuite, on va donner une seconde vie à ces déchets. Donc ça, ça représente en tout 26% de nos déchets. 26% de nos déchets qui sont recyclés aujourd'hui. Ou alors, deuxième solution, ils sont emmenés vers du compost ou de la méthanisation qui va produire du biogaz.
Mais ça veut dire qu'il y a des... Pour faire ce second tri, là, il y a du personnel, j'imagine.
Voilà, tout à fait, bien
Combien
sûr.
Ça coûte? Est-ce qu'on peut mettre des prix sur ce business? C'est un gros business aujourd'hui, le recyclage des déchets?
Alors, de manière globale, le marché des déchets en France, ça représente un business de 7,4 milliards d'euros. C'est aussi beaucoup d'emplois à la clé, évidemment. Les Français,
dire, ouais.
on est plutôt très bons en fait sur ce marché-là. On a deux gros acteurs qui sont Suez et Veolia, qui sont aussi numéro 1 et numéro 2 au niveau mondial. Donc c'est plutôt une fierté nationale.
Ils ont des concurrents? D'autres concurrents?
Oui, maintenant ils ont des concurrents. Donc par exemple, Séchez Environnement, le groupe Nicolin, Pizzorno Environnement. Voilà, sont tous ces acteurs qui effectivement font tourner la boutique.
Et c'est rentable alors ou pas de traiter, de traiter les déchets? Alors, c'est une activité rentable?
Oui, ça reste une activité qui est évidemment rentable, mais qui l'est un peu moins ces dernières années. C'est un marché qui se tasse. Il y a le cabinet d'études de Xerfi qui a montré que ces dernières années, la marge opérationnelle avait baissé de 7% à 3,7%. Donc c'est des acteurs qui vont essayer de trouver de nouveaux débouchés.
Vous écoutez RTL.
RTL, première radio de France. RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
La poubelle est tombée, elle était pleine de déchets. Il faut dire qu'on produit de plus en plus de déchets. Nous, là, tous ensemble, collectivement...
Vous tout seul, déjà 458 kilos, Thomas.
Oui, et ça fait 100 de plus qu'il y a 10 ans. Donc vous imaginez, on a là une responsabilité collective. Et en même temps, c'est intéressant parce que ça crée un business, on le disait à l'instant avec notre invité.
Et des emplois.
Julia Zimmerlich, qui est journaliste au magazine Ça m'intéresse. Des emplois et deux géants du secteur, Suez et Veolia, qui sont les premiers mondiaux. Donc c'est intéressant de voir que sur un même constat, il y a le côté pile et le côté face. On va essayer de comprendre combien ça nous coûte, d'abord ce coût total de la gestion. Tiens, par exemple, pour des municipalités, le coût, ça a évolué comment ces dernières années?
Mais là aussi, ça a explosé, c'est-à-dire que évidemment les quantités ont augmenté, donc mathématiquement la facture augmente aussi. Le problème, c'est qu'en 10 ans, la facture, elle a doublé. On est passé de 5,2 à 9,9 milliards d'euros pour la gestion des déchets municipaux. Alors, comment expliquer cette augmentation? Il y a effectivement les quantités, mais il y a aussi qu'on a essayé de moderniser notre gestion des déchets. Donc il a fallu par exemple qu'on multiplie les centres de tri en France. On a dû mettre en place la collecte séparée, donc ça implique d'avoir deux camions. Un camion jaune et puis un camion normal. On a multiplié les déchetteries parce qu'on s'est dit que ce serait bien que les gens se responsabilisent et amènent eux-mêmes leurs déchets. On a multiplié les centres de compostage. Il a fallu moderniser les incinérateurs. Donc tout ça a fait augmenter notre facture.
Et alors ce qui nous intéresse, c'est qui la paye cette facture?
Alors nous, évidemment, les usagers. Donc pour nous aussi, la facture a doublé. Après, il y a évidemment d'autres...
Ça c'est sur nos impôts locaux, par exemple, qu'on peut le voir, ça?
Alors, là, c'est...
Collecte des ordures, etc.
Là, on aborde un sujet très, très compliqué.
Oui, mais attendez, ça nous intéresse, ça sort de notre porte-monnaie, donc on veut savoir où c'est pris.
Alors,
comment on les paye?
En fait, les municipalités, elles ont deux possibilités. Soit elles mettent en place une redevance, soit elles mettent en place une taxe. Donc c'est la ROM, la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, ou la TOM, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Donc la redevance, c'est une facture à part qu'on reçoit une ou deux fois par an. Et la taxe, en revanche, elle est incluse dans la taxe foncière. Voilà.
Ben voilà, c'est clair.
C'est très clair.
C'est simple.
Oui, le problème, en fait, c'est qu'après, concrètement, il va y avoir des variations de tarifs qui sont énormes.
D'accord.
Voilà. Je veux dire, entre les municipalités.
Ouais. Voilà, il y a de grandes inégalités, en fait, entre les Français face à ce coût.
Donc, nous, on paye, et on peut s'en rendre compte en regardant de près, par exemple, notre taxe foncière, et les industriels. Moi, j'ai entendu parler plusieurs fois du principe payeur-pollueur. Est-ce que ça marche en France, ça, aujourd'hui?
Oui, bien sûr, ça marche. En fait, en France, c'est une directive européenne. On a mis en place les REP, Les responsables, les...
La Rome, la Tom,
c'est
les
ça,
REP.
Exactement.
Alors c'est quoi là,
les REP? Quand on rentre là-dedans, c'est plein de très jargonneux. Donc c'est les filières à responsabilité élargie, c'est-à-dire qu'en fait, pour n'importe quel produit qui est mis sur le marché, l'industriel va payer une taxe à un éco-organisme qui va ensuite prendre en charge tout le processus de recyclage. Voilà. Donc concrètement, si je vous donne un exemple, votre boîte de biscuits, l'emballage carton de votre biscuit, eh ben le fabricant de votre boîte de biscuits a payé une taxe à éco-emballage, qui est l'éco-organisme qui s'occupe des emballages en France.
Donc Julia Zimmerli, je vous nous expliquais tout ce système de payeur-pollueur, payeur-consommateur, c'est nous. Mais on a vu que toutes ces taxes et toute cette transformation de nos déchets, c'est pas forcément efficace.
Alors le problème, en fait, c'est qu'on constate que depuis 2010, le recyclage des déchets en France, il stagne.
Ça veut dire quoi, il stagne? Ça veut dire quoi?
C'est-à-dire qu'on a atteint un plafond. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, malheureusement, il n'y a que 55% des emballages, des bouteilles plastiques et de nos emballages plastiques qui sont recyclés, par exemple. Il n'y a que 49% des briques alimentaires qui sont recyclées.
Et le reste, ça va où alors? Ça va dans une...
C'est incinéré ou en stockage.
Ah oui, donc c'est quand même problématique, là.
Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, ça échappe au cycle de recyclage.
Pourquoi? Parce que là, on va forcément s'auto-flageller en disant « Ah là là, on ne fait pas bien notre travail de citoyen modèle », sauf que c'est plus compliqué que ça, forcément. Il faut nous donner les moyens, peut-être, de recycler.
Voilà, c'est-à-dire que en fait, le problème avec le recyclage en France, c'est que c'est hyper compliqué, quand même. C'est-à-dire que les consignes de tri, faut s'accrocher, quoi, pour comprendre ce qu'il faut mettre dans cette poubelle de recyclage.
Et pourtant, si on regarde le sondage que vous avez réalisé au sein de « Ça m'intéresse », on a l'air d'être de bons trieurs, nous, les Français. C'est sûr, 120 personnes sondées. Il n'y en a que 6% qui disent ne pas trier. Les autres trient à 90% le verre, à 87% le papier, à 86% l'emballage, à 83% les piles. C'est pas mal.
Oui, ça, effectivement, c'est plutôt des bons chiffres. Je pense que les lecteurs de Ça m'intéresse, c'est des très bons trieurs.
D'accord.
Voilà.
Et les auditeurs d'RTL, est-ce qu'ils sont des bons trieurs? Appelez-nous au 3210 pour nous dire si vous triez vos déchets.
Voilà. Après, la réalité, c'est que les Français ont effectivement pris l'habitude du geste de tri, mais qu'ils ne trient pas systématiquement. Et c'est comme ça, en fait, qu'on a autant de déchets qui nous échappent alors qu'ils pourraient être recyclables.
Qu'en pensent les associations qui défendent l'environnement de ce système de recyclage? Il y a des systèmes alternatifs qui existent, il y a des solutions différentes.
Alors en fait, les associations de l'environnement pensent que notre système se mord la queue, c'est-à-dire qu'on pousse finalement enfin, il n'y a rien qui est mis en place pour diminuer notre production de déchets, et que le discours ambiant, c'est plutôt de dire recycler, recycler. D'accord.
Pourquoi? Parce qu'il faut que les incinérateurs fonctionnent, c'est ça? Il faut les faire tourner?
Oui, effectivement. En fait, c'est une des aberrations de la gestion des déchets en France. C'est que les incinérateurs, pour qu'ils soient rentables, il faut qu'ils tournent à plein régime. Donc ça veut dire qu'il faut les alimenter en continu en déchets. Une autre aberration, il faut que le taux d'humidité de l'incinérateur il soit maintenu à un certain niveau. Et pour que ce taux d'humidité soit maintenu, il faut qu'on mette du papier, du carton.
C'est de l'énergie, ouais.
Voilà, autant de matériaux qui sont recyclables, en fait, mais qu'on va mettre dans les incinérateurs.
Bon, le bilan n'a pas l'air très très positif, mais dans un instant, on va découvrir les dernières innovations pour réduire notre production de déchets.
Vous écoutez RTL.
RTL.
Trier, c'est comme couper l'eau du robinet en se brossant les dents. On évite le gaspillage.
Jusqu'à 22h,
on donne une nouvelle vie aux déchets qui seront bientôt transformés en nouveaux objets.
La curiosité est un vilain défaut.
La brique de lait et la boîte de céréales vides du matin. La bouteille de lessive et le flacon de shampoing en plastique, on les met où? Dans la poubelle du recyclage aussi. Et la bouteille de jus de fruits en verre? Dans la poubelle ou le conteneur réservé au verre. Attention.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Adoptons les bons gestes.
Nous produisons de plus en plus de déchets, nos poubelles débordent et cela nous coûte de plus en plus cher. Notre invitée ce soir, Julia Zimmerli, c'est journaliste au magazine Ça m'intéresse, qui consacre un dossier passionnant à ce sujet en partenariat avec RTL. On parle de ces nouveautés, de ces manières de trier plus intelligemment, que ce soit de notre côté à nous ou du côté des trieurs professionnels. On parle par exemple d'un tri sans contact humain. Ça, c'est une idée développée par Veolia. Vous nous racontez, Julia?
Oui, alors ça, effectivement, c'est une nouvelle technologie qui a été développée par Veolia. L'idée, en fait, c'est qu'au lieu de faire un tri manuel, l'agent est donc face à un écran et va pouvoir C'est un petit peu compliqué à expliquer, hein. Un petit peu technique.
Mais en fait, l'idée, c'est de ne plus toucher les déchets, c'est ça, parce que jusqu'à maintenant, ce sont les trieurs touchent et traitent les déchets à la main.
Alors, pas partout, mais effectivement, en France, dans la majorité, sont des centres de tri, c'est des petits centres de tri, et effectivement, le tri se fait de manière manuelle. Et l'idée, en fait, c'est d'augmenter les rendements et de trier de plus en plus vite. Et donc, on essaye de, enfin, Veolia essaye de développer des nouvelles technologies où, face à l'écran, l'agent n'a qu'à faire un coup de doigt qui va déclencher un mécanisme de soufflerie et qui va trier les
déchets.
C'est-à-dire
qu'il y a une caméra qui filme les déchets, c'est ça? Lui, voilà. Il les voit défiler sur un écran.
Exactement.
Et il envoie les uns d'un côté, les autres de l'autre, sur un écran tactile, c'est
exactement.
Ça
exactement. Ah, on voit sur un écran tactile.
Alors, les concurrents Suez, eux, inaugurent de leur côté Plast Lab. C'est quoi? C'est un labo?
Alors, en fait, ce qu'on n'a pas dit peut-être aux auditeurs, c'est qu'en France, on n'est pas très bon pour recycler les plastiques. Parce qu'il y a plein de types de plastiques différents et qu'on n'a pas forcément les technologies encore pour recycler tous les plastiques. C'est-à-dire que oui, on sait très bien recycler une bouteille en plastique, mais au-delà de ça, on ne sait pas faire. Donc, par exemple, le pot de yaourt, on ne sait pas le recycler. Le film plastique de la barquette plastique, on ne sait pas non plus le recycler. Donc, effectivement, l'idée de Suez avec Plast Lab, c'est de travailler directement avec les industriels pour voir comment on pourrait recycler les différents plastiques et comment ils pourraient être utilisés par les industriels dans leurs produits.
Alors ça fait d'ailleurs réagir beaucoup nos auditeurs. On a Antoine qui nous dit « Oui, nous trions, mais nous trions mal. Les frais de tri sont trop élevés en France. »
Alors Sébastien qui nous appelle au 3210 de la Sarthe « Je suis à la campagne, il n'y a pas de service éboueur dans mon village et la benne à ordures du village ne propose pas de poubelle de tri. »
Et puis John qui dit « Je ne comprends pas pourquoi on nous demande de trier alors que les éboueurs mettent tous les déchets dans une même benne. » C'est vrai qu'on entend souvent.
Ça, je crois que c'est une légende urbaine.
Ça, c'est une légende urbaine.
Ouais.
Donc, ces déchets qu'on trie, ils sont quand même pris en charge, c'est ça?
En fait, l'immense majorité des déchets des déchets triés vont dans la bonne benne quand même. Hein. Après, effectivement.
Oui, mais vous nous disiez, pardon, je vous interromps, qu'une partie, par exemple, du carton et du papier servait en fait à être brûlé dans des incinérateurs pour maintenir le niveau d'humidité au bon niveau, c'est
ça? Oui, mais ça c'est parce qu'il y a eu un problème de tri à la base, c'est-à-dire que l'usager n'a pas mis son carton dans la bonne poubelle.
D'accord.
On va quand même pas aller chercher le carton qui est en centre de tri pour aller l'incinérer, non. On peut pas ça quand même.
D'accord.
Donc, on faisait un peu la liste de tout ce qui pourrait un peu progresser. Là, on est vraiment du côté des industriels et des trieurs de déchets. Il s'agirait aussi d'utiliser tous ces déchets pour fabriquer plus d'énergie, c'est ça?
Oui, alors ça, c'est la nouvelle innovation qui est mise en avant par les industriels du secteur de la gestion des déchets. Alors, tenez-vous bien, ça s'appelle la technique du CSR, combustible solide de récupération. L'idée, en fait, c'est d'utiliser le pouvoir calorifique de nos déchets et de substituer en fait les énergies fossiles. Donc par exemple dans une cimenterie, on va pouvoir utiliser nos déchets pour fournir donc pour utiliser leur pouvoir calorifique. Le problème c'est que les déchets qui ont le plus haut pouvoir calorifique sont toujours les mêmes, c'est le papier, le carton, les déchets organiques que on sait recycler.
Ah oui, d'ailleurs à propos de déchets organiques, Thomas, saviez-vous que bientôt on va peut-être faire du compost chez nous? Vous savez ce que c'est? Moi, mes grands-parents faisaient ça, ça avait un autre nom d'ailleurs, j'ai perdu le nom. Faire du fumier, voilà, oui, c'est ce que je cherchais. Voilà.
En laissant les déchets dans un coin du jardin, mais enfin, encore faut-il avoir un jardin.
On peut le faire sans jardin, c'est ça, Julia?
Oui, bien sûr. Alors, c'est pas qu'on va pouvoir, c'est qu'on va devoir. C'est-à-dire que d'ici 2025, ça fait partie de la loi de transition énergétique, les communes vont avoir l'obligation de donner la possibilité à tous les usagers de trier leurs déchets organiques. C'est-à-dire que déjà, il y a certaines communes qui proposent des composts, donc soit des composts individuels, soit des composts pour les immeubles.
C'est quoi? C'est un bac, en fait, finalement, dans lequel on met ses déchets?
Voilà, déchets organiques.
Organiques, donc il y a des légumes, des épluchures de légumes.
Voilà, de barres de café, ça peut être aussi des feuilles mortes de son jardin.
Pas de viande, hein, bien sûr.
Non,
on va éviter. Et on en fait quoi après, alors?
Alors après, ça fait du compost qu'on peut utiliser pour dans son jardin, par exemple.
Ah oui, c'est un usage personnel en fait. C'est vraiment. Oui. D'accord.
tout à fait.
Julia Zimmerlich, je crois avoir en mémoire le fait qu'on pouvait faire baisser sa facture de d'ordures ménagères si on triait bien. Il y a des communes qui font ça, une espèce de tarification un peu incitative. Oui. Plus vous triez bien, moins ça vous coûte d'argent, c'est ça ?
Exactement,
c'est l'idée ?
Exactement.
Voilà, comment ça marche ?
Alors, pour l'instant, il y a à peu près 150 collectivités qui ont mis en place la tarification incitative. Là aussi, ça fait partie des objectifs qui ont été fixés par le gouvernement. Donc, on va aller de plus en plus vers une tarification incitative. Et l'idée, c'est que oui, plus on réduit nos déchets, moins on va payer de...
Ça marche ?
Plus la facture.
Mais comment on le sait, ça ? C'est-à-dire que il y a quelqu'un qui vient compter le contenu de notre poubelle ?
Alors, c'est un système très sophistiqué.
Ouais.
Donc, à Besançon, ils viennent de mettre ça en place. Et donc, c'est des camions-bennes qui vont peser votre poubelle et qui sont capables de dire exactement chaque semaine combien vous jetez de déchets.
Ah, est-ce que ça marche ? Une grande compète entre les voisins.
Oui, non, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que les comportements ont changé depuis que ce système est mis en place ? Est-ce qu'effectivement, on produit moins de déchets, du coup ?
Les résultats sont assez spectaculaires parce qu'en l'espace de 3 ans, ils ont réussi à baisser de 20% les ordures. Enfin, le volume d'ordures classiques. Et au global, parce qu'évidemment, ça s'est reporté sur la poubelle de recyclage, au global, ils ont baissé de 10%. Donc, ça marche.
Et la facture aussi a baissé un peu ?
La facture s'est maintenue.
Ah bah oui, ah bon, d'accord.
Parce que ça a nécessité beaucoup d'investissement. Donc, les premières années, ça se maintient et après, ça peut baisser.
Allez, Thomas, je vous lance un défi. On va peser nos poubelles cette semaine.
Bien sûr.
Allez,
faisons ça.
Merci beaucoup, Julia Zimmerlich.
Merci.
Cette enquête est à découvrir dans le Ça m'intéresse.
Vous écoutez RTL.